voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Présentation du livre de l'ancien ministre de la Justice sur le fonctionnement de la justice au Mali. Pour certains magistrats, cet ouvrage dénonce les maux que connaît la chaîne pénale au Mali. Rapatriement en N'Djamena des corps des casques bleus tchadiens de la MINUSMA. Ce dimanche, une cérémonie d'hommage leur a été rendue à Bamako. Après la demande d'application de la peine de mort au Mali par le collectif des associations musulmanes, les Bamakois sont partagés sur la question. Si certains approuvent cette application, d'autres sont catégoriquement contre. Présentation de ce journal à Setou Kanté. La justice en Afrique, ce grand corps malade au cas du Mali, c'est le nom de l'ouvrage de Maître Mamadou Konaté. Ce document de 164 pages constitue un témoignage d'un ancien ministre de la justice sur les problèmes de fonctionnement de la justice au Mali, édité par la maison d'édition La Sahélienne. Le livre a été présenté ce week-end au public et à la presse au parc national de Bamako. Ibrahima Haran Diallo nous en dit plus.
Pour illustrer son diagnostic de la maladie de la justice malienne, Maître Mamadou Konaté revient sur certains cas qui se sont produits près de Bamako.
J'ai vu le juge de Tukoto dormir sur un sommier sans matelas, sans drap et sous la pluie. J'ai vu des justices où on ne garderait pas une poule dedans. J'ai vu des prisons où on meurt de gale et de kochoko, tout près d'ici.
L'auteur explique que le bon fonctionnement de la justice malienne dépend du changement de comportement des magistrats. Selon lui, les comportements déviants de certains magistrats sont en déphasage avec l'état de droit.
La crainte et la puissance du juge lui exigent d'être correct, de ne pas dévier de ce qu'il est chargé de juger. Il se trouve, mesdames et messieurs les juges, que parmi vous, il y a des déviants. Et tant qu'il y aura un seul déviant parmi vous, que vous ne retournez pas à la maison, vous aurez du mal à juger les autres.
Toutefois, cet avocat et l'ancien ministre de la Justice insiste sur le fait que le rôle d'une presse libre est responsable et indispensable au fonctionnement de la justice et de l'état des droits.
Cette presse-là aujourd'hui a besoin de se sortir de sa torpeur. Arrêtez de faire des papiers à la commande, ça ne paye pas. Arrêtez de prendre pour faire des papiers, arrêtez de faire les louanges des gens, ça ne paye pas. Ce qui paye, dénoncez. Ce qui paye, allez vous rendre compte. Ce qui paye, allez dans les tribunaux, dans les juridictions. Voyez les juges dénoncer leurs mauvaises décisions de justice. La prochaine fois, ils changeront.
L'actualité au Mali sur l'application de la peine de mort n'a également pas échappé à l'auteur. Sur la question du maintien ou de l'application de la peine de mort, sa réponse est sans ambiguïté.
La peine de mort a ce risque que, quand on condamne et qu'on exécute la peine, il n'y a plus rien. Or, la justice est rendue par des hommes. Les hommes sont infaillibles. Quand ils se trompent, qu'est-ce qu'on fait? On réveille les gens? Non. Aucune peine ne doit avoir pour conséquence aujourd'hui d'anéantir une vie.
Tant que la corruption demeure au sein de la justice, aucun espoir n'est permis, déclare la section syndicale de la RFSIMA. Pour son président Cheikh Mohamed Chérif Kone, ce livre de l'ex-ministre de la Justice décrit dans son intégralité les maux que connaît la chaîne pénale au Mali, de la magistrature à la société civile jusqu'aux défenseurs des droits de l'homme. Chacun doit travailler à son niveau pour que la justice malienne puisse redorer son image, affirme-t-il. Il est joint par Arkia Touré.
Il a évoqué la faiblesse du crédit de fonctionnement, ce qui est une réalité. C'est vrai, il a parlé de la corruption. La corruption, c'est un phénomène réel et la justice n'est pas exempte de ce phénomène de corruption. Et actuellement, au niveau de l'Union internationale des magistrats, nous sommes en train d'envisager toutes les stratégies pour combattre efficacement la corruption au sein de la justice. Et tant que la corruption demeure au sein de la justice, aucun espoir ne peut être permis. Et il faut que la justice soit débarrassée de toute la corruption et que les syndicats de la magistrature aient le courage d'extirper tous ceux qui se rendront complices de corruption et du corps de la magistrature pour pouvoir mériter la confiance des populations. La société civile doit efficacement jouer son rôle parce que la société civile a intérêt à ce que la justice soit rendue. Et notamment les associations de défense des droits de l'homme doivent veiller en sorte que le citoyen puisse avoir droit à une bonne justice qui est un droit fondamental.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Faut-il appliquer la peine de mort au Mali ou pas? Les avis divergent sur la question avec l'insécurité qui sévit dans le pays. Écoutons la réaction de certains Bamakois au micro de Ousmane Diko et Mariam Boubacar Diallo.
La peine de mort peut dissuader les malfaiteurs. Il faut un garde-fou pour canaliser l'être humain. Sans ça, la criminalité va augmenter. Parce que quand ils tuent les gens, on les amène en prison, après les juges vont les faire libérer. Donc ils vont toujours continuer.
Par rapport à la sollicitation de la peine de mort, on doit bien enquêter d'abord avant de mettre en œuvre la peine de mort. Parce que dans la vie, pour bien faire la justice, il faut bien enquêter pour faire la différence entre le mensonge et la vérité.
Dans la situation actuelle, je pense que c'est nécessaire parce que vu la récurrence de la violence au Mali, alors vraiment il faut ça.
Je pense que c'est mieux de mettre la personne en prison à perpétuité que de l'exécuter. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne mérite pas d'être exécuté aussi.
Autre sujet, les corps des casques bleus tchadiens de la MINUSMA ont été rapatriés ce dimanche à N'Djamena après une cérémonie d'hommage à Bamako le 20 janvier dernier au cours d'une attaque perpétrée par des groupes terroristes sur le camp de la MINUSMA à Aguelok. 10 militaires tchadiens et au moins 3 terroristes ont été tués. Ousmane Nyalibouli.
Les jours de l'attaque à Aguelok, le général Hubert Kotero explique que les djihadistes ont d'abord coupé les moyens de communication civile avant de déclencher simultanément une offensive surprise sur 3 postes de l'aménagement. Selon lui, cette attaque a été menée par un groupe de 150 terroristes à bord de 25 pick-up. C'est en ce moment que le kamikaze s'est fait exploser juste avant la contre-offensive organisée par les forces tchadiennes et les renforts Barkhane hélicoptères sur les lieux. Une patrouille de Mirage 2000 des renforts en personne et en munitions venant de Kidal et des drones ont contribué à desserrer l'étau, ajoute le général. Après le Mali, le Tchad a abrité ce matin en N'Djamena la cérémonie d'hommage aux 10 casques bleus tchadiens tués au cours de cette violente attaque terroriste. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la Défense du Tchad et du Mali, du chef de la MINUSMA, du chef des opérations du maintien de la paix de l'ONU et du chef de l'État tchadien Idriss Déby. Le Tchad est présent au Mali depuis 2013 et constitue l'un des plus gros contingents avec 1450 militaires. Il est aussi celui qui a subi le plus de pertes avec plus de 60 soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
Direction Kita où plusieurs femmes de menu évoluent dans l'exploitation des graviers de construction pour appuyer leurs époux dans la prise en charge de la famille. Dans ce secteur, les difficultés sont énormes. Selon elles, il y a la fatigue intense, le vol de leurs produits par les chauffeurs de camions et le faible rendement. Malgré toutes ces contraintes, elles restent fidèles en attendant d'autres bonnes occasions. Suivons le reportage de notre correspondant à Kita, Fode Moussa Diakité.
Ici, on les voit au quotidien sur les sites de gravier avec des pioches, des pelles et des tamis en main. Ces femmes se battent tous les jours pour assurer certains besoins de la famille. Certaines d'entre elles, comme Bougouri Diara, témoignent que c'est par manque d'un travail stable et moins dur qu'elles s'adonnent à cette activité.
Je n'ai pas de travail et d'autres moyens pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi j'extrais du gravier. Sinon, ceci n'est pas le métier d'une femme. Tout ce que je trouve, cela me permet de subvenir aux besoins de mes enfants. Les gens veulent m'aider, mais ils n'ont pas assez de moyens. Ce métier me fatigue beaucoup. Mais que faire? Nous, les femmes, dès que nous terminons le soir d'extraire du gravier, nous sommes très épuisées. On n'arrive même plus à dormir, tellement nous sommes fatiguées. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide.
Cependant, malgré leur courage et leur don de soi, ces dames sont confrontées à d'énormes difficultés. Parmi ces contraintes, il y a entre autres l'insuffisance des recettes et le vol de leurs produits par certains chauffeurs de camions. Yaï Kanté, exploitante et habitante de Bokono, village proche du site.
Parfois, il y a des gens qui volent notre gravier. Nous ne les connaissons pas. Certaines prennent en dette et ne payent pas vite. D'autres, par contre, payent rapidement. Nous ne gagnons rien dans ce travail. Là où je suis assise, je n'ai rien. Pendant la saison ou après la saison, il n'y a rien dans ce boulot. Le peu qu'on trouve survient aux besoins de la famille. Nous, les femmes, nous sommes fatiguées de ce métier, mais vu la situation, que faire?
Enfin, elle sollicite l'aide et l'accompagnement des autorités du cercle afin qu'elles puissent mieux profiter de leur dur labeur. Pour Studio Tamani, Fode Moussa Diakité depuis Kita.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
18h passées de 9 minutes, actualité régionale. Le nouveau chef du village d'Erba dans la commune de Boura, Serge Dansongo, a été investi hier. Âgé de 50 ans, Ibrahim Keïla succède à son père Hassan Keïla, décédé il y a de cela 8 ans. La cérémonie d'investiture s'est tenue en présence des populations et des mouvements armés de la plateforme. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré.
Bonsoir Assetou Kanté.
Alors ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Nous allons parler parler du train de vie de l'État, une mesure annoncée par le gouvernement. Il s'agit de réduire les dépenses liées au carburant et produits et l'achat de produits alimentaires, ainsi que de revoir le processus d'achat de véhicules et de billets d'avion. Et pour en parler, nous avons trois économistes. Professeur Mamoutou Soumaré, membre du Centre de recherche et de réflexion sur la corruption au Mali. Professeur Oumar Boiré, économiste aussi, directeur du Centre de recherche en sciences économiques et sociales, membre du think tank UEMOA. Et Khalid Dambélé, chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Il est aussi chargé de cours au complexe universitaire de Kabbala.
Merci et très bon débat. Restez avec nous dans un instant. La question A.